France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Et nous avons installé notre studio dans un lieu très particulier de la centrale qu'on vous présente dans quelques minutes. Sur ce site d'une centaine d'hectares, en temps normal, 4 réacteurs fournissent de l'électricité à 4 millions de personnes et toute l'industrie du coin, c'est 7% de la production nationale. Nous avons visité ce matin l'un des 4 réacteurs du Bugey, cœur battant de la centrale. Notre guide s'appelait Sophie Delaunay-Delcroix, responsable du service conduite, celui qui assure la surveillance des installations et le pilotage des réacteurs.
Nous sommes juste à l'entrée de la zone nucléaire des installations, zone pour laquelle on se rapproche du cœur du réacteur nucléaire. Donc il y a le risque de rayonnement issu de la radioactivité, donc c'est pour ça qu'on est habillé en tenue de lumière.
On est habillé comme des cosmonautes.
C'est ça.
Voilà, ça prend 20 bonnes minutes de se préparer. Ouais. Et donc là, nous allons franchir une porte
qui va nous mener vers le bâtiment réacteur. Alors le bâtiment réacteur, vous allez voir quand on va rentrer, il a une forme, vous l'avez vu de l'extérieur, il a une forme cylindrique.
Oui.
Il fait 60 mètres de hauteur et à peu près 35 mètres de diamètre. Donc là, on va être obligé de donner son badge puisqu'on recense et on contrôle les accès.
Donc on passe effectivement à travers un premier sas.
Ouais, voilà, un deuxième. Et là, on va arriver au niveau de l'espace qu'on appelle annulaire. Ce fin d'anneau.
D'accord.
Autour du cœur du bâtiment réacteur.
Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on peut visiter ce bâtiment parce qu'il est en maintenance.
Exactement. Donc ce bâtiment, il faut savoir qu'il est fermé en fonctionnement, donc c'est assez inédit de pouvoir y rentrer. On peut y rentrer exclusivement quand le réacteur est à l'arrêt. On fait un arrêt tous les 15 mois et il y a des arrêts de différentes typologies. Là, aujourd'hui, on est sur un arrêt simple rechargement, donc un arrêt qui fait à peu près une cinquantaine de jours pour lequel on fait 2000 activités, on remplace une partie du combustible et puis après on redémarre, après avoir eu bien sûr l'autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire de redémarrer. Il y a de ça un an, on a fait sur ce même réacteur une visite décennale. Là on est sur 20 000 activités, 200 jours d'arrêt et on fait aussi des tests grandeur nature. On a testé par exemple l'ensemble de l'étanchéité du bâtiment réacteur, hein, ce gros bâtiment que je vous ai décrit. Lui on l'a monté sous pression à 5 bars pour vérifier son étanchéité. Grandeur nature, on fait ça tous les 10 ans.
Ces visites décennales qui permettent d'obtenir l'autorisation d'exploitation 10 ans de plus.
Comme on s'approche de la cuve du réacteur, hein, là vous pouvez apercevoir la piscine.
Oui.
Au fond vous avez la cuve du réacteur qui est aujourd'hui vide,
oui.
Hein, puisque l'ensemble des assemblages combustibles ont été retirés et mis dans le bâtiment combustible qui est à côté. Vous voyez devant vous, on a la piscine qui est remplie.
D'accord.
Parce que l'eau elle nous sert à la fois à refroidir, donc là on n'a pas d'éléments combustibles, il n'y a pas vraiment besoin de refroidissement, mais elle nous sert aussi à nous protéger comme écran biologique vis-à-vis du rayonnement.
Au fond, qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, ce que vous voyez derrière le grand filet, vous en avez 3 gros composants comme ça, ce sont les générateurs de vapeur.
Quand la centrale fonctionne, qu'est-ce qui se passe ici ?
Alors, quand la centrale fonctionne, on a la cuve du réacteur qui est fermée, les piscines qui sont vides. La cuve du réacteur dans laquelle va se passer le phénomène de fission nucléaire.
Oui.
Donc, on va utiliser cette réaction, ça va chauffer l'eau. On monte à 320 degrés et on maintient sous pression à 155 bars pour la garder sous forme liquide. Et en fait, on va venir fabriquer de la vapeur dans ces grosses bouillottes que sont les générateurs de vapeur. Et c'est cette vapeur qu'on va utiliser pour faire tourner les turbines.
Et fabriquer
de l'électricité via un alternateur.
Donc là, nous repassons les sas. On sort de la zone dite nucléaire.
5, 4, 3, 2, 1, non contaminé.
Voilà, je suis officiellement non contaminé. J'espère que la machine ne s'est pas trompée. On passe à travers 3 machines de ce type après la visite du réacteur. Et pour le détail, dans l'une d'entre elles, on est carrément en caleçon. Pierre Dubois, directeur de la centrale nucléaire du Bugey. Ce réacteur est à l'arrêt. Pourtant, il y avait beaucoup de bruit derrière nous. Pierre Boyer, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Il y avait beaucoup de bruit derrière nous. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, même dans un réacteur à l'arrêt ?
Alors, les bruits qu'on entendait dans le bâtiment réacteur sont les bruits des ventilations. Des ventilations qui sont en fonctionnement, y compris réacteurs à l'arrêt. On a beaucoup de matériel qui fonctionne aussi pendant les arrêts en maintenance.
2 autres personnes nous ont rejoints autour de la table. Bonjour Olivier Duvois.
Oui, Olivier Dubois.
Ah bah décidément, adjoint du directeur de l'expertise de sûreté à l'IRSN. Alors en fait, il y a 2 institutions chargées de la sûreté nucléaire. Il y a vous et l'ASN. L'ASN, c'est le politique et vous, c'est le technique. En résumé, c'est ça ?
C'est un bon résumé. L'ASN, c'est le gendarme, c'est celui qui prend les décisions. L'IRSN, c'est l'expert technique dans le domaine des risques radiologiques et nucléaires en France. Donc c'est un institut d'environ 1500 personnes avec des spécialistes dans tous les domaines nécessaires pour la sûreté nucléaire. Nous avons des spécialistes du fonctionnement des systèmes des centrales. Nous avons des géologues, des spécialistes des séismes, des spécialistes des inondations, des spécialistes de la mécanique, des matériaux, etc. qui nous permettent de faire des expertises en toute indépendance et appuyer sur une expertise technique assez profonde.
Deux réacteurs à l'arrêt actuellement au Bugey, l'un pour rechargement du combustible, l'autre c'est la visite décennale qui s'achève. Vous regardez quoi ?
Alors pendant ces périodes d'arrêt, nous regardons en particulier la conformité des systèmes, c'est-à-dire que nous faisons des visites de terrain en accompagnant les inspecteurs de l'ASN pour s'assurer que l'ensemble des systèmes de la centrale sont en bon état et sont dans l'état dans lequel ils doivent être. C'est un aspect extrêmement important pendant les arrêts des réacteurs. Quand ce sont des arrêts plus longs comme les visites décennales, EDF réalise des modifications, des améliorations de sûreté pendant ces visites décennales. C'est des travaux de plus longue haleine qui visent à se rapprocher des meilleurs standards de sûreté. Et on va vérifier que ces modifications sont faites correctement et conformément aux études qui sont dans les rapports de sûreté des installations.
Ce que vous avez vu sur les deux réacteurs actuellement à l'arrêt pour maintenance est de nature à vous rassurer ?
Ce qui a été vu jusqu'à présent sur ces réacteurs, oui, montre qu'il n'y a pas d'obstacle au redémarrage dans les jours qui vont venir de ces deux réacteurs à l'arrêt actuellement, même si les expertises se font en permanence et jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment de la divergence du réacteur et de sa remontée en puissance, qui est le moment où l'autorité de sûreté nucléaire va donner son autorisation finale pour l'exploitation du réacteur.
Pierre Boyer, vous espérez qu'ils repartent quand ces deux réacteurs ?
Les deux réacteurs aujourd'hui sont prévus de revenir sur le réseau au mois d'avril, début avril.
Troisième invité autour de la table, Joël Guéry, bonjour.
Bonjour.
Vous appartenez à l'association Sortir du nucléaire Bugey. Vous siégez à la commission locale d'information. C'est quoi la commission locale d'information ? Parce qu'au fond, c'est important de voir comment l'état d'une centrale, comment on informe la population autour.
Oui, surtout les sites nucléaires, il y a une commission locale d'information qui regroupe des élus du secteur, des experts, des syndicalistes et des associations.
Et c'est une commission purement d'information ou vous avez un mot à dire ? Comment ça se passe ?
Alors ça dépend beaucoup des commissions locales d'information.
D'accord.
Et des sites. Il y a des commissions qui ont des gros budgets et qui font un peu d'expertise. Il y en a d'autres qui font simplement de l'information.
Et dans le coin, qu'en est-il ?
On est plutôt sûr de l'information, je dirais même un peu restreinte, puisqu'il y a des commissions locales d'information où on a connaissance des incidents de niveau zéro sur l'échelle qui classe les incidents.
Qui va jusqu'à cette
jusqu'à
échelle.
7.
Ouais.
Et là, on a connaissance qu'à partir de 1.
Votre regard sur la prolongation, je sais que Pierre Boyer préfère le terme continuité, on a ici des réacteurs qui ont été construits dans les années 70. À l'origine, c'est des réacteurs qui étaient construits pour durer 40 ans, on est au-delà. Quel regard portez-vous sur le fait qu'on les prolonge ?
On n'est pas favorable à la prolongation. Disons que nous, on préférerait qu'on sorte le plus rapidement possible de l'énergie nucléaire en France. Actuellement, on est un petit peu inquiet sur ce qui nous a été annoncé parce qu'il a été parlé d'un grand carénage où on allait changer, remettre à neuf les principaux composants, du moins ceux qui peuvent se changer, pas la cuve. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas le cas puisque à Bugey, par exemple, pour Bugey 2, Bugey 3, il y avait un réservoir qui était corrodé, déformé, mais qui a été juste réparé. Sur Bugey 5, qui termine sa quatrième visite décennale, il y a des générateurs de vapeur qui datent de 1993, qui sont qui sont conservés. Et puis, il y a aussi l'autorité de sûreté nucléaire, puisqu'en fait, tous les réacteurs de 900 MW sont sur la même structure.
Oui.
Donc, ils ont décidé des prescriptions génériques. Et malheureusement, pour Bugey 2, 4 et 5, il y a 60% des prescriptions de travaux qui ne sont pas faites lors de la visite décennale, mais qui sont reportées 5 à 6 ans plus tard.
Pierre Boyer, sur cette question ?
Alors, la priorité d'exploitant que je suis, évidemment, c'est la sûreté nucléaire. Nos installations sont vivantes. C'est-à-dire qu'on améliore en permanence la sûreté de nos installations. On apporte des modifications à notre installation, sur nos réacteurs, notamment à l'occasion des visites décennales. Et l'objectif, à l'issue de ces quatrièmes visites décennales, qui sont déjà réalisées sur trois de nos quatre réacteurs, c'est d'amener le niveau de sûreté de nos réacteurs à l'équivalent du niveau de sûreté des EPR2, qui sont le meilleur standard international en termes de sûreté. Et c'est le cas sur nos réacteurs, comme sur l'ensemble des réacteurs du parc nucléaire français, qui vont faire ce qu'on appelle le grand carénage, c'est le grand projet industriel qui permet un step de sûreté à la hausse pour pouvoir pour pouvoir poursuivre en toute sûreté notre exploitation au-delà de 40 ans.
Que dit l'IRSN de ces exploitations au-delà de 40 ans?
Alors effectivement,
Olivier Dubois.
Pour exploiter au-delà de 40 ans, il y a un certain nombre de composants qui ne sont pas remplaçables dans ces réacteurs nucléaires, en particulier la cuve qui contient le cœur du réacteur, qui est un composant extrêmement important pour la sûreté du réacteur, qui était initialement prévu pour durer 40 ans. Et donc la possibilité d'exploiter 10 ans de plus ces réacteurs avec les mêmes cuves a fait l'objet d'une expertise approfondie de la part des experts de l'IRSN suite à la demande de l'ASN. Ça a duré entre 3 et 4 ans, cette expertise, et on a vraiment essayé de regarder dans le détail l'ensemble des résultats, des échantillons qui ont été prélevés sur des matériaux similaires à celui de la cuve des réacteurs et qui avaient été irradiés, pour regarder les propriétés mécaniques de ces matériaux et s'assurer qu'effectivement, l'effet de l'irradiation sur la cuve, qui est quelque chose de connu,
oui.
N'avait pas d'effet délétère sur la résistance mécanique de la cuve pour les 10 ans qui viennent. Ça a vraiment fait partie.
Et c'est le cas.
Et c'est le cas pour les 10 ans qui viennent.
Expliquez-nous ces problèmes de soudure dont on parle régulièrement à propos des centrales nucléaires. Est-ce que c'est un problème majeur? De quoi relève-t-il?
Alors, je pense que vous évoquez le problème apparu relativement récemment, ouais, de corrosion sous contrainte qui affecte un certain nombre de réacteurs d'EDF. Le problème affecte des soudures qui ont d'abord été contrôlées sur le réacteur numéro 1 de Civaux.
Oui.
Un défaut a été détecté lors de contrôles périodiques réalisés par EDF et le tronçon de tuyauterie correspondant a été envoyé au laboratoire d'analyse d'EDF à Chinon et l'analyse a révélé que c'est de la corrosion sous contrainte. Un type de défaut qui était inattendu sur des soudures, sur des tuyauteries en acier inoxydable. Le réacteur de Civaux 2 étant du même type que celui de Civaux 1, oui, EDF a décidé de procéder au même contrôle. Idem pour les réacteurs numéro 1 et numéro 2 de Chaux, ainsi que le réacteur numéro 1 de Penly, où un défaut a également été découvert.
Donc ça fait 5?
Ça fait 5. Suite à ça, EDF a réanalysé des données qu'il avait en sa possession sur les contrôles réalisés dans le passé et a identifié 6 réacteurs sur lesquels des contrôles priorisés doivent être réalisés pendant le premier semestre 2022. Parmi ces 6 réacteurs, il y a notamment les réacteurs numéro 3 et 4 de Bugey. Pour l'un de ces réacteurs, il sera arrêté pour un contrôle spécifique et l'autre réacteur, le contrôle sera fait lors d'un arrêt programmé.
Je vous donne la parole dans un instant, Pierre Boyer. Olivier Dubois, ce sont des défauts sérieux, c'est préoccupant, que dites-vous?
Ce sont des défauts qu'il faut caractériser précisément, notamment en termes de profondeur. Actuellement, EDF ne dispose pas d'un moyen de mesurer la profondeur du défaut sans découper la tuyauterie. Donc la priorité pour EDF, c'est de développer un moyen de mesurer la profondeur du défaut. Ensuite, lorsque EDF disposera de ce moyen, caractériser les défauts sur l'ensemble du parc et adopter une attitude adaptée en fonction de la profondeur des défauts et des réacteurs. Mais l'urgence, c'est de contrôler.
Pierre Boyer, quand on a des difficultés de cette nature dans la centrale comme la vôtre sur deux réacteurs, que fait-on?
Alors, c'est la force d'avoir un parc de 56 réacteurs avec un retour d'expérience extrêmement important. C'est tout à fait normal quand on identifie un défaut comme à Civaux, qu'on se pose la question sur l'ensemble des réacteurs du parc nucléaire. On ne peut d'ailleurs déjà dire que sur les réacteurs numéro 2 et 5, il n'y a absolument pas ce type de défaut. Et sur le réacteur 3 et numéro 4, aujourd'hui, on ne peut pas assurer qu'il y a l'absence de défaut. Il n'est pas établi qu'il y aura un défaut, mais on ne peut pas assurer qu'il n'y en aura pas. C'est pour ça qu'on fait un arrêt spécifique pour contrôle du réacteur numéro 4. Et on va profiter de l'arrêt pour maintenance programme du réacteur numéro 3 pour aller dédouaner ou pas ces tuyauteries. S'il n'y a pas de défaut, ben on aura fait un arrêt qui va rassurer sur le fait qu'il n'y avait pas de corrosion.
Mais s'il y a un défaut, c'est un problème manifestement, puisqu'on ne mesure pas la profondeur, si j'ose dire, du défaut.
Aujourd'hui, on est en train de développer et des moyens de mesurer. Alors, on appelle caractériser chez nous, mais en fait, c'est mesurer la taille du défaut. Seront disponibles aujourd'hui au courant mai, mais en même temps, on sait réparer. On a les moyens de réparer, on sait couper des tuyauteries et les ressouder, mais là, il faut qu'on investigue pour qu'on aille au plus rapidement à la compréhension du phénomène.
Joël Guéry, il y a 17 réacteurs à l'arrêt sur les 56, ce qui est quasiment du jamais vu.
Non, hier, il y en avait 24 totalement à l'arrêt et 3 en arrêt partiel. Et ça représentait...
17, c'était à la fin de l'année, 24 désormais.
Oui,
c'est quasiment du jamais vu, c'est même du jamais vu.
C'est jamais vu sur les années 2021 et 2022.
Ça suscite votre préoccupation.
Ça a été jamais vu en hiver, hein, en période hivernale. Et c'est assez inquiétant, parce qu'en fait, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a été faite pour la période 2019-2023, mais qui a réfléchi aussi jusqu'à 2035, puisqu'en fait, il a été décidé de reporter l'objectif de 50% de nucléaire dans le mix électrique, au lieu de 75% actuellement, de le reporter de 2025 à 2035, et tout est basé sur les réacteurs nucléaires, pratiquement, puisque en même temps, on ferme les centrales fuel et on ferme les dernières centrales charbon.
Même or, si c'est en train d'être remis en cause en ce qui concerne Saint-Avold.
Oui, voilà. Actuellement, effectivement, ça va reposer des questions parce que on voit bien que la prolongation à 50 et 60 ans, parce que pour aller à 2035, il y a des réacteurs qu'il faut qu'il y ait à 60 ans, n'est pas fiable. Et qu'il est possible qu'il y ait des réacteurs qui soient d'ici là totalement arrêtés pour des raisons de sûreté.
Deux petites parenthèses. Pierre Boyer, présentez-nous le lieu où nous sommes. Nous avons commencé cette émission à l'extérieur, au milieu du site de 100 hectares. Là où sommes-nous? Nous sommes dans une immense salle. Le vaisseau de Spock à côté, c'est de la rigolade. Où sommes-nous?
Alors nous sommes dans un simulateur de salle de commande.
C'est une réplique. Il y a des consoles et des écrans partout autour de nous.
Alors c'est une réplique à l'échelle 1 de la salle de commande qui est installée sur nos réacteurs. Il y a une salle de commande par réacteur, c'est l'équivalent du cockpit d'un avion. Et donc là, on est dans un simulateur qui permet l'entraînement des personnes qui pilotent chaque jour, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, nos réacteurs. Et chaque pilote de réacteur passe entre 12 et 15 jours chaque année à s'entraîner au fonctionnement normal, mais aussi à toutes les situations qu'on pourrait rencontrer sur un réacteur. C'est près de 10% du temps passé par nos opérateurs de conduite à se former.
Et derrière moi, il y a un chiffre. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre derrière
moi? Alors, ce chiffre, c'est la puissance produite à l'instant T par alors la tranche numéro 2 dans le simulateur. Donc, évidemment, c'est simulé, mais c'est reproduction réelle de ce qui se passe sur nos installations. Donc là, on peut lire 928 mégawatts. Donc ça veut pas dire grand-chose, mais il faut savoir que derrière notre alternateur qui produit ces 928 mégawatts, il y a 1 million de personnes qui vivent grâce à ce réacteur, 1 million de personnes et toute l'industrie qui va avec. Donc c'est beaucoup d'électricité.
Autre parenthèse, Olivier Dubois, avant de parler des EPR, l'IRSN a un centre technique de crise qui se penche sur la situation des centrales en Ukraine. Il y a 4 centrales, 15 réacteurs, 2 sont occupés par les Russes, Zaporijja et Tchernobyl. Est-ce que vous avez des moyens d'avoir des informations à distance et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation?
Oui, nous avons un certain nombre de contacts avec l'autorité de sûreté ukrainienne, ainsi que des experts techniques en Ukraine, qui nous permettent de savoir, par exemple, qu'à Zaporijja, il y a eu donc une des centrales dont le contrôle a été pris par les forces russes. Il y a eu la semaine dernière des difficultés avec les alimentations électriques de la centrale sur les 4 lignes qui connectent la centrale au réseau électrique. 2 lignes avaient été perdues. L'une d'entre elles a été rétablie depuis. Les alimentations électriques des centrales, c'est important puisque c'est ce qui permet en cas d'accident dans la centrale d'alimenter les systèmes de sauvegarde de la centrale et donc de maintenir le refroidissement du cœur en toute circonstance. Après, en cas de perte de ces lignes électriques, il y a des systèmes internes à la centrale qui sont des systèmes de secours d'urgence qui permettraient de réalimenter en électricité les systèmes principaux de la centrale, comme le diesel d'ultime secours dont on a parlé au début de l'émission en France.
Je ne pensais pas poser cette question, mais si ici, au Bugey, il y a une attaque d'ordre militaire, est-ce que la centrale est conçue pour résister, par exemple, à un missile ?
Alors, les réacteurs nucléaires, ils sont abrités à l'intérieur d'une enceinte en béton, une grande enceinte en béton armée relativement épaisse. Cependant, ce n'est pas dimensionné pour une attaque de missile telle qu'on peut l'imaginer en cas de guerre avec des missiles de très forte puissance en cas de guerre. Mais comme l'a montré, commence à le montrer le retour d'expérience de la situation en Ukraine. C'est peut-être les problèmes d'alimentation électrique, les problèmes de situation de stress dans lesquelles se trouvent les équipes de conduite de la centrale, les questions d'approvisionnement en pièces de rechange pour le bon fonctionnement de la centrale, de réalimentation du diesel en fuel, des diesels de secours qui arrivent en préoccupation la plus probable, je dirais, dans ces situations-là.
Alors, Pierre Boyer, il y a une force d'action rapide. Expliquez-nous en quoi elle consiste.
La force d'action.
Et on entendra un témoignage.
Alors, la force d'action rapide du nucléaire, ça a été la réponse immédiate et assez unique au monde qui a été proposée par EDF à l'autorité de sûreté pour tenir compte rapidement de l'expérience tirée de l'accident de Fukushima. Qu'est-ce qu'il a manqué à Fukushima pour éviter les conséquences qu'on connaît ? C'est de l'eau, de l'air et de l'électricité pour pouvoir refroidir le cœur avec des pompes qui fonctionnent et des robinets qui peuvent manœuvrer. Et donc la FARN, c'est 300 professionnels du nucléaire qui ont une capacité à se projeter sur n'importe quelle centrale du territoire français et être opérationnel en moins de 24 heures pour apporter des moyens de production d'électricité, des groupes électrogènes, des moyens d'air comprimé, des moyens de pompage et aussi des équipes pour relever justement les pilotes de réacteurs qui se forment dans la salle où on est.
Au Bugey, 70 personnes à mi-temps sur leur métier, à mi-temps sur cet entraînement en cas d'accident, et le responsable s'appelle Bernard Todisco.
L'objectif de la FARN sur un incident nucléaire, c'est d'éviter la situation catastrophique, à savoir la fusion du cœur et les rejets à l'atmosphère. Voilà. Donc pour ce faire, on a donc des moyens d'eau, où on va pomper de l'eau et réinjecter de l'eau dans les circuits de la centrale, des moyens électriques pour alimenter un certain nombre d'éléments clé dans le système de la centrale. On est prévu pour pouvoir acheminer nos matériels dans à peu près toutes les conditions. Si on doit franchir des inondations, on a une barge qui flotte à partir de 50-60 mètres d'eau si les véhicules sont obligés de s'arrêter.
Olivier Dubois, qu'est-ce qui a changé sur les centrales françaises et par exemple celle-ci depuis Fukushima ?
Bien particulièrement l'installation de moyens qu'on appelle moyens du noyau dur, qui sont des moyens ultimes de refroidissement du cœur en cas d'accident grave. On a parlé des diesels d'ultime secours.
On entendait ça dans les titres.
Il y a également un moyen ultime d'appoint en eau. Alors, selon les centrales françaises, c'est pas forcément la même technique qui a été retenue, mais ça peut être des pompages en nappe ou des réservoirs en dur qui sont construits, qui permettent d'alimenter en eau les piscines de stockage du combustible, puisque c'est aussi important que le cœur du réacteur. Et puis, on peut citer aussi des moyens qui sont en cours de construction, qui sont des centres locaux de crise bunkérisés. Pour pouvoir permettre à l'exploitant de développer tous les moyens nécessaires de son plan d'urgence interne en cas de crise. Ils ne sont pas terminés, ces centres locaux de crise sur les centrales françaises. Il y a celui de Flamanville qui est terminé, les autres sont en cours de construction.
Et Joël Guéry, y a-t-il au fond une culture du risque en France en général et dans cette région en particulier? Il y a ce qu'on appelle un PPI dans une zone de 20 km alentour. En quoi consiste ce PPI? Et voilà.
Alors le PPI, il était d'abord à 10 km autour de la centrale. Maintenant, il a été porté à 20 km. C'est une zone où, d'une part, les gens reçoivent des pastilles d'iode pour se protéger contre l'iode radioactif qui pourrait être émis lors d'un accident. Ils ne protègent pas, par contre, contre les autres composants radioactifs qui sont émis.
PPI pour plan particulier d'intervention, je ne l'ai pas précisé.
Pardon, oui. Et il y a des consignes, c'est-à-dire que les communes proches doivent s'auto-évacuer vers des centres de crise. Pour l'Ain, c'est Hauteville, Oyonnax et Bourg. Pour l'Isère, c'est Grenoble. Et puis les autres personnes doivent rester confinées. Et puis après, c'est le préfet qui va donner les ordres pour gérer la crise.
Quoi. Alors, je vous interroge sur ce sujet à nouveau dans un instant. D'abord, petit extrait de reportage avec Mathilde Imberti. Comment les habitants dans cette zone de 20 km vivent-ils cette proximité de la centrale? Quelques éléments de réponse.
Bon, je pense que c'est quand même assez sûr. Ça fait 40 ans qu'elle existe. Après, il n'y a pas de risque zéro, hein, mais on est dépendant de l'énergie. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Quoi.
Non, ce n'est pas un souci qui me ravage, le nucléaire. Je ne pense pas, parce que sinon, on ne vivrait plus. Hein.
Vous habitez où?
À Mont-Luel.
Donc vous êtes concerné par le plan particulier d'intervention?
Ah.
Vous êtes censé avoir des pastilles d'iode chez
oui,
vous?
Oui, j'ai. Alors je les ai parce que mon fils il y a quelque temps a eu une entreprise, donc c'est par son intermédiaire que je les ai eus, sinon on les aurait pas eus.
Oh, vous pouvez aller en pharmacie je...
Voilà, mais il faut être au courant déjà, on sait pas ce qu'il faut faire, se protéger, je sais pas comment.
Moi je suis née, elle n'existait pas, maintenant elle y est, bon ben qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai un peu peur, oui c'est vrai, moi j'ai un peu peur, mais maintenant je suis opérée de la thyroïde, c'est pour ça, j'ai une pastille à la maison, mais elle doit être plus valable, il y a au moins 10 ou 15 ans.
Joël Guéry, est-ce que l'information de la population alentour est au niveau exigé, de votre point de vue?
Je pense que l'information de la population, c'est très difficile, comme pour toute autre information, et je pense qu'il y a encore des lacunes, et même on a encore des communes qui n'ont pas fait tout le travail, puisque normalement, 2 ans après l'établissement du nouveau plan particulier d'information,
d'intervention,
les communes devaient mettre à jour leurs plans communaux de sauvegarde. Et il y avait encore quelques communes qui ne l'avaient pas fait 2 ans après, alors que normalement, elles auraient dû le faire. Donc on voit qu'effectivement, le risque n'est pas une priorité aussi bien chez les gens qui ne vont pas forcément chercher leur pastille d'iode, parce que beaucoup ont reçu un courrier. Alors, il y a eu des loupés dans les envois de courrier, et aussi, même chez des élus, quoi.
Pierre Boyer, les EPR, on en a pas encore parlé, les EPR deuxième génération qui seront peut-être installés ici au Bugey, ça se joue entre le Bugey et Tricastin. Qu'est-ce qui d'ailleurs fera que ce sera au Bugey ou Tricastin? Vous savez, c'est des considérations techniques, politiques?
Alors, ce sera une décision du président de la République, non seulement de lancer le programme de 6 ou plus EPR et de décider du lieu d'implantation.
Cela donnerait du travail à combien de personnes si les deux EPR sont installés ici?
Alors,
et pour combien de temps?
On part sur un programme de 3 paires d'EPR, de 6 EPR, ouais. Pour avoir un effet palier. La construction de 6 EPR, c'est 30 000 emplois, donc près de 20 000 emplois directs.
Ça, c'est pour toute la France.
Et donc, pour deux réacteurs à Bugey, ce serait près de 8 000 emplois pendant 10 à 15 ans sur le territoire. Et donc, une paire d'EPR, quel que soit le territoire où l'implanter, c'est une formidable chance d'abord pour le climat. Je rappelle que le nucléaire est une énergie bas carbone. On produit 20 fois moins de carbone que nos voisins. C'est une formidable chance aussi pour la souveraineté du pays. Et c'est aussi une formidable chance économique pour la France.
Est-on, Olivier Dubois, au point sur les techniciens? On entendait au tout début de ce journal les inquiétudes dans le coin en disant que ce serait formidable qu'on ait les EPR au plan économique. Mais on manque de personnel. Combien de temps faut-il pour former des personnels du nucléaire?
Pour former des personnels du nucléaire, il faut effectivement
y a plein de métiers différents,
un certain temps, mais il y a énormément de métiers différents. Et les métiers du nucléaire sont des métiers qu'on retrouve aussi dans d'autres domaines. Quelqu'un qui est spécialiste d'électronique, d'électrotechnique, de mécanique, de sciences des matériaux peut venir travailler dans le nucléaire. Donc, de ce point de vue-là,
ça n'est pas une difficulté majeure, la question des techniciens qui viendraient ici sur le chantier des EPR.
ce sera forcément une difficulté en fonction de l'ampleur du nombre de tranches de réacteurs que l'on souhaite construire en France dans les années qui viennent. Et il faudra clairement intensifier les cursus de formation dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, dans ce domaine-là.
Pierre Boyer, je vous redonne la parole dans un instant. Joël Guéry, au fond, l'argument selon lequel le nucléaire, c'est la meilleure énergie aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique. Énergie décarbonée et qui assure une indépendance énergétique, et Dieu sait si c'est important en ce moment. Qu'est-ce que vous répondez à ça, qui est un argument fort ?
Eh bien que c'est faux. Que c'est faux, les nucléaires, on peut pas dire que c'est décarboné, on peut dire que c'est peu carboné, tout comme les énergies renouvelables. Après, il y a des chiffres qui sont avancés, mais quand on interroge EDF et qu'on leur demande l'analyse de cycle de vie d'un réacteur EPR, on nous répond qu'il n'en existe pas en France. C'est quand même un problème.
Y a on des est chiffres, quand même beaucoup moins carboné que sur du gaz ou du pétrole.
Oui, tout voilà. À fait. Après, il faut quand même se poser la question. Il y a eu des études qui ont été faites aussi bien par le réseau de transport d'électricité, filiale d'EDF. Il y en a qui ont été faites par l'ADEME. Et aussi l'association Négawatt, ces études, elles concluent toutes qu'il est possible de fonctionner en 2050 avec 100% d'énergie renouvelable, sans nucléaire.
Même si aujourd'hui c'est 10% du mix électrique contre 70% pour le nucléaire, l'écart
est
très important.
Oui, alors après ça dépend si on raisonne en énergie finale ou en énergie primaire.
Enfin l'écart est très important de toute façon, à ce stade. Et donc le saut est important.
Oui, mais justement, c'est là qu'est le problème. Et les déclarations qui sont faites, entre autres, par notre président de la République, qui veut lancer dès maintenant 6 EPR et 8 en études complémentaires, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Parce que, en fait, les études de RTE concluent toutes, quel que soit le scénario retenu avec ou sans nucléaire, elles concluent toutes que la priorité dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, c'est de mettre vraiment le paquet sur les énergies renouvelables. Ça devrait être aussi la priorité des candidats aux élections présidentielles. Or, ça ne l'est pas. Parce que les présidentielles, c'est pour les 6 ans qui viennent, c'est pas pour 2050.
Pour les 5-6 ans qui viennent, en comptant, 5 ans pour le quinquennat. Pierre Boyer, il faut combien de temps pour construire des EPR? Question annexe. Est-ce que Flamanville n'a pas montré qu'EDF avait un défaut au-delà de la question des techniciens, manquait de personnel pour mener un chantier, pour encadrer et diriger un chantier? Est-ce que le grand échec de Flamanville n'est pas là? Et qu'au fond, puisqu'on ne construisait pas de centrale depuis longtemps, on a perdu cette culture.
Alors aujourd'hui, c'est la filière nucléaire, c'est 220 000 personnes qui sont mobilisées, qui sont prêtes. Alors évidemment à EDF, mais aussi chez nos principales partenaires. Et c'est 220 000 personnes qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir lancer ce programme en tenant compte de l'expérience acquise grâce à Flamanville 3, mais aussi à la construction d'autres EPR, notamment en Angleterre, à Hinkley Point, réacteur qui respecte son planning de construction. Alors qu'est-ce que ça veut dire tirer l'expérience de Flamanville 3? Bien sûr, c'est optimiser la fabrication, donc plus de préfabrication, de la standardisation, de l'industrialisation. Et bien sûr, maintenant, les équipes sont entraînées, formées, pour garantir qu'on saura construire des EPR 2, donc c'est des EPR optimisés, comme je vous l'expliquais, en termes de fabrication et de construction, qui permettent de garantir qu'on pourra les construire dans les délais et dans les coûts annoncés.
Olivier Dubois, question sur les déchets. Quelle quantité de déchets, au fond, produit l'industrie nucléaire chaque année en France? Est-ce qu'on a ce chiffre-là?
Alors, ça dépend de quel type de déchets on parle.
Allons-y.
Si on parle du combustible usé, c'est à peu près 1000 tonnes par an à l'échelle du parc. Une partie de ce combustible est réutilisée pour fabriquer du combustible à base de plutonium, qu'on appelle du MOX, qui est suite à un traitement qui est fait à l'usine de La Hague dans le Cotentin, et qui est ensuite fabriqué à Mellox, et puis réutilisé dans les centrales nucléaires. Après, si on parle d'autres types de déchets, qui sont les déchets du démantèlement des installations, par exemple, je pourrais pas vous donner un chiffre comme ça en direct, mais bien sûr, le démantèlement des installations produit différents types de déchets avec des niveaux d'activité variables, donc des niveaux de dangerosité variables, et qui sont destinés à différents sites de l'ANDRA en France, qui est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs.
Est-ce que pour vous, IRSN, la question du stockage, du transport des déchets est un motif d'inquiétude?
Il y a des solutions techniques qui sont en place en France. La France, c'est un grand pays du nucléaire, et donc il y a des solutions techniques qui sont en place. Il y a une difficulté actuellement liée au cycle du combustible, avec des piscines d'entreposage à La Hague qui se remplissent. Et donc on estime qu'il y a un risque de saturation de ces piscines à horizon 2030 environ. C'est la raison pour laquelle EDF souhaite construire une nouvelle piscine de stockage de combustible usé à La Hague. Mais je pense qu'elle ne sera en service que dans les années 2035. Et donc, en attendant, il y a un besoin de densification des stockages à La Hague. Et ça, c'est une difficulté qui est à venir.
Où sont stockés les déchets ici et combien de temps reste-t-il stocké, Pierre Boyer? Je vous précise qu'il nous reste 30 secondes.
Alors, on a les déchets tout à fait classiques, comme toute industrie, hein, qui sont valorisés à plus de 90%. Et puis, on a les déchets nucléaires, là encore, deux parties. La partie combustible, qui reste 2 ans en piscine de désactivation, dans le bâtiment combustible, avant d'être évacué à La Hague. Et les déchets dits nucléaires, par exemple, c'est les déchets, tout à l'heure, quand on était en zone contrôlée, les gants, les équipements qu'on sort de la zone nucléaire après maintenance, qui, eux, ont tous une filière d'élimination. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que EDF est responsable de ces déchets dès la production jusqu'à son stockage final. Et c'est une grande chance d'avoir une entreprise comme la nôtre qui est responsable de sur toute la chaîne des déchets. Et juste pour terminer, peut-être parler des déchets, surtout qu'on ne produit pas. Hein, on est une industrie bas carbone et donc le carbone est un déchet qu'on ne produit pas.
Merci à tous les trois, Pierre Boyer, Olivier Dubois et Joël Guéry, d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour.